Washington, la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde Aujourd'hui, édition du mercredi 8 octobre 2014. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. Bonjour Anne.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Au sommaire de cette édition, Anne.
Au Mali, un casque bleu sénégalais tué dans une attaque contre une base de la MINUSMA à Kidal.
Entrée en action en novembre de la force régionale mise en place pour lutter contre Boko Haram, annonce-t-on à la fin du sommet de Niamey.
En Centrafrique, c'est aujourd'hui que les ministres anti-Balaka doivent officiellement présenter leur démission, conformément à l'ultimatum de leur mouvement.
La lutte contre l'épidémie d'Ebola en Afrique sera longue et dure, estime le directeur des centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies.
L'émissaire spécial de l'ONU en Syrie estime que les défenseurs de Kobané ont besoin de l'aide immédiate de la communauté internationale.
Ici aux États-Unis, nouvelle victoire hier pour les partisans du mariage homosexuel, 24 heures après une décision favorable de la Cour suprême. Et ne manquez pas la musique de Roger Muntou et les sports en fin d'émission. Pour l'instant, le journal. Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont condamné dans les termes les plus énergiques l'attaque d'hier contre une base de la MINUSMA à Kidal, dans le nord du Mali, attaque qui a coûté la vie en casque bleu sénégalais. Ils ont exprimé leurs profondes condoléances à la famille du soldat tué, ainsi qu'au gouvernement et au peuple du Sénégal. Ils ont rendu hommage aux casques bleus sénégalais pour leurs sacrifices et efforts continus au sein de la MINUSMA. Selon l'AFP, le casque bleu sénégalais a été tué hier soir par des tirs de roquettes des djihadistes qui opèrent toujours dans le nord du pays. C'est vers 17h45 que la base de la MINUSMA a essuyé ces tirs qui ont fait aussi un blessé. Les explications de Radia Achouri, porte-parole de la MINUSMA.
Le 7 octobre soir, il y a eu 7 lancements ou de roquettes ou de mortiers. 6 avaient été arrivés dans notre camp. À ce stade, on a pu compter, malheureusement, le décès de l'un de nos casques bleus et un autre qui a été légèrement blessé. Bien entendu, notre équipe sur place est en train de faire une évaluation des dégâts qui auraient été causés par ces tirs. Mais encore un fermement, parce que là, il s'agit encore une fois d'une autre attaque lâche. Monsieur Latsous, le secrétaire général adjoint au maintien d'un pays, souligne avec beaucoup de fermeté que les responsables de ces attaques vont être identifiés, ils vont être punis, ils vont répondre éventuellement et ultimement de leurs actes. Ça ne va pas passer comme ça, sans qu'il y ait de suite.
Il y a 4 jours, une autre attaque meurtrière contre la MINUSMA a coûté la vie à 9 soldats nigériens dans la région de Gao, au sud de Kidal, auxquels les honneurs ont été rendus lors d'une cérémonie à Bamako mardi.
La force régionale mise en place pour lutter contre le groupe armé islamiste nigérian Boko Haram entrera en action en novembre, ont décidé les chefs d'État du Nigeria et des pays voisins au terme d'un sommet mardi à Niamey, rapporte l'AFP.
L'établissement de l'état-major de cette force sera accéléré de façon à le rendre opérationnel avant la fin du mois de novembre, tout comme les bataillons dédiés au combat contre Boko Haram seront déployés dans les mêmes délais à nos frontières respectives, a déclaré le président du Niger, Mahamadou Issoufou, dans son discours de clôture de cette rencontre.
À Bangui, la transition, déjà plus que fragile, va à nouveau être mise à mal ce mardi. Les ministres anti-Balaka vont officiellement présenter leur démission conformément à l'ultimatum du mouvement qui a pris fin ce mardi soir. Ces déclarations n'ont aucune incidence pour Catherine Samba Panza, qu'il a rappelé hier devant le Conseil national de transition. Pour plus d'explications, Nicolas Pineau a joint Antoinette Montaigne, porte-parole de la présidence centrafricaine.
Bien évidemment. Ça ne la concerne absolument pas, ça concerne les personnes qui ont lancé cet ultimatum. Le chef de l'État de la transition a été mise en place à partir d'un vote du Conseil national de transition. Et elle est l'interlocutrice privilégiée de la communauté internationale dans le cadre de la transition qui est vraiment bien balisée. Les questions qui interviennent ça et là sur des formulations typiquement politiques ne font pas partie des enjeux de la transition. Toute voix dissonante est regrettable en soi et comporte un risque de déstabilisation du pays qui est encore très fragile.
Épidémie d'Ebola, le directeur des Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies, estime que la lutte contre l'épidémie en Afrique sera longue et dure, tout en faisant remarquer qu'il y a des signes réels de progrès.
Le docteur Thomas Frieden a précisé lors d'un briefing à la presse à Atlanta que ces progrès incluent une meilleure formation, une plus grande connaissance du virus et des pratiques plus sûres, y compris pendant l'enterrement des victimes de la maladie.
Le docteur Frieden a également souligné qu'il n'y a eu aucun nouveau cas au Nigeria et que l'épidémie en République démocratique du Congo a été circonscrite. En outre, il y a baisse du nombre de nouveaux cas dans certaines parties du Libéria, l'un des pays les plus touchés par l'épidémie.
La Sierra Leone a lancé hier des programmes d'enseignement diffusés par la radio et la télévision pour remédier à la fermeture des écoles pour cause d'épidémie d'Ebola. Bagassi Koura.
Les cours seront retransmis 4 heures par jour, 6 jours sur 7 par 41 radios et l'unique chaîne de télévision nationale, a annoncé le gouvernement. Sylvester Meho, directeur de l'enseignement secondaire, a déclaré que les enfants devront prendre au sérieux ces programmes car, a-t-il souligné, c'est à partir de cela qu'ils seront évalués lorsque l'enseignement normal reprendra. Il a ajouté qu'en l'état actuel des choses, on ne peut tabler sur une réouverture des écoles avant début 2015. Les Sierra Leonais ont accueilli favorablement la mesure. Sam Mbayo, un fonctionnaire à la retraite à Kailahun, une province sous quarantaine, estime que tout moyen d'instruire les enfants est mieux que les laisser à ne rien faire. Les écoles sont fermées depuis l'instauration de l'état d'urgence à la fin juillet dans le pays, qui compte plus de 600 morts pour quelque 2300 cas de fièvre hémorragique Ebola.
Le Premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahou, a demandé mardi à ses ministres de préparer une nouvelle loi pour lutter contre l'immigration illégale après que la Haute Cour a cassé une précédente législation autorisant la détention prolongée des migrants sans procès. Morgane Guiriec.
Benjamin Netanyahou a ordonné à ses ministres de la Justice, de l'Intérieur et de la Sécurité publique de préparer un nouveau projet de loi au lendemain d'un débat houleux au Parlement où des députés ont vivement critiqué la décision de la Haute Cour. Le 22 septembre, la Haute Cour avait stipulé que le gouvernement israélien n'est plus autorisé à maintenir en détention les migrants pendant un an sans procès. La Cour avait ordonné la fermeture dans les 90 jours du centre d'Olo, en plein désert du Negev, où environ 2000 Africains sont retenus. Israël a déjà expulsé près de 6000 migrants. Selon les chiffres officiels, 48 000 Africains résident dans le pays, en majorité des Érythréens et des Sud-Soudanais. La plupart d'entre eux vivent dans des zones pauvres de Tel Aviv, où plusieurs manifestations contre leur présence ont été organisées.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'émissaire spécial des Nations Unies en Syrie, Stéphane de Mistura, estime que les Kurdes qui défendent la ville de Kobané face aux combattants de l'État islamique pourraient ne plus être en mesure et bientôt de tenir tête à ces derniers.
Selon M. de Mistura, les Kurdes usent de ce qu'il a appelé des armes normales contre les chars et les mortiers de l'État islamique. Ils font preuve d'un grand courage, mais la communauté doit les épauler. L'émissaire spécial de l'ONU a ajouté que les villes déjà prises par les djihadistes font face à des massacres, viols et autres actes indicibles de violence.
Les États-Unis estiment que leur campagne aérienne contre l'État islamique près de Kobané ont été utiles, mais le président turc Recep Tayyip Erdogan estime que les bombes à elles seules ne suffisent pas et qu'une offensive terrestre majeure est nécessaire. Mais les Turcs n'ont montré jusqu'ici aucune intention d'envoyer des forces à travers leurs frontières avec la Syrie.
Et puis au moins 9 personnes ont été tuées mardi lors de violentes manifestations pro-kurdes qui ont éclaté en Turquie pour dénoncer le refus du gouvernement d'Ankara d'intervenir militairement pour empêcher la chute de Kobané, selon l'AFP qui cite un nouveau bilan des médias turcs. De nombreuses autres personnes ont été blessées lors de ces affrontements qui ont fait de très importants dégâts matériels dans de nombreuses villes du pays, dont celles du sud-est à majorité kurde, ont précisé ces médias.
Ici aux États-Unis, un ancien ministre de la Défense et chef des services de renseignement critique le président Barack Obama. Léon Panetta, c'est de lui qu'il s'agit, estime qu'Obama a fait fausse route dans la conduite des politiques militaires au Moyen-Orient au cours des dernières années, ici à Kaba.
Léon Panetta a dirigé le ministère de la Défense et la CIA sur une grande partie de la présidence de M. Obama. Dans un nouveau livre publié mardi, il dénonce les faiblesses du chef de l'exécutif américain qui, selon lui, s'appuie sur la logique d'un professeur de droit plutôt que sur la passion d'un leader. Panetta a salué la décision de M. Obama d'autoriser le raid qui a tué le terroriste Osama Ben Laden. Mais il affirme que le président américain a fait plusieurs erreurs dans la mise en œuvre des politiques en Irak et en Syrie, qui, dit-il, ont contribué à la montée de l'État islamique et la conquête par ces groupes de vastes pans de territoire ces derniers mois. Le porte-parole de la Maison-Blanche, Josh Earnest, a déclaré lundi que M. Obama continue d'affirmer son leadership dans le Moyen-Orient avec les frappes aériennes dirigées contre l'État islamique. Les mémoires de Panetta ont attiré les foudres de la Maison-Blanche. Le vice-président Joe Biden a dit qu'il est inapproprié pour les anciens fonctionnaires d'écrire des livres sur leurs fonctions peu de temps après les avoir quittés et alors que M. Obama est toujours en poste.
Enfin, ici aux États-Unis, nouvelle victoire hier pour les partisans du mariage entre personnes de même sexe, 24 heures après une décision favorable de la Cour suprême dans le cas de 5 États. À San Francisco, une cour d'appel fédérale a en effet jugé inconstitutionnelle l'interdiction des mariages homosexuels dans l'Idaho et le Nevada. Puisque la même cour couvre aussi l'Alaska, l'Arizona et le Montana, sa décision va s'appliquer également à ces États. Quand celle-ci entrera en vigueur, les mariages homosexuels seront reconnus dans 35 États, plus Washington DC, la capitale fédérale.
Voilà pour le journal. Merci à Anne Albertson, Washington, la voix de l'Amérique. Nous le disions dans la première partie de cette émission, à Bangui, la transition, déjà plus que fragile, va à nouveau être mise à mal ce mercredi. Les ministres anti-Balaka vont officiellement présenter leur démission conformément à l'ultimatum du mouvement qui a pris fin mardi soir. Ces déclarations n'ont aucune incidence pour Catherine Samba-Panza, qui l'a rappelé hier devant le Conseil national de transition. Pour plus d'explications, Nicolas Pineau a joint Antoinette Montaigne, porte-parole de la présidence centrafricaine.
Je voulais simplement préciser que le chef de l'État de la transition a été mis en place à partir d'un vote du Conseil national de transition. Et elle est l'interlocutrice privilégiée de la communauté internationale dans le cadre de la transition qui est vraiment bien balisée. Les questions qui interviennent ça et là sur des formulations typiquement politiques ne font pas partie des enjeux de la transition qui sont de ramener la sécurité, de rassembler les Centrafricains autour de la table pour le dialogue politique et conduire le pays vers des élections libres et transparentes.
Donc la présidente de la transition ne tiendra pas compte de cet ultimatum?
Bien évidemment, ça ne la concerne absolument pas, ça concerne les personnes qui ont lancé cet ultimatum.
Est-ce que néanmoins, ça ne risque pas de fragiliser la transition?
Bien évidemment, toute voix dissonante à cette transition est regrettable en soi et comporte un risque de déstabilisation du pays qui est encore très fragile. Je voulais simplement dire que la République centrafricaine est aujourd'hui portée à bout de bras chaque seconde par la communauté internationale. Et cette communauté internationale, c'est d'autres pays qui font des efforts, eux, qui travaillent, qui nous soutiennent financièrement, matériellement, moralement. On n'a pas le droit de rester les éternels capricieux de la communauté internationale qui ne saisissent pas la chance de la mettre en vue de la communauté internationale. Je pense que le moment est venu de regarder nos problèmes en face, notre état d'esprit, nos manières de faire et de nous ressaisir et de venir rencontrer le chef de l'État de la transition dont le rôle est d'être à l'écoute de tout un chacun, y compris de ceux qui demandent sa démission aujourd'hui. Elle a toujours été à leur écoute. Elle continuera de le faire en dépit des provocations qui lui sont lancées elle ne cédera pas au chantage ou toute autre provocation politique. Elle reste dans le droit fil de son engagement, à savoir essayer de sortir son pays et notre pays ensemble de la crise et puis aller vers les élections pour donner de meilleures perspectives à la vie.
Concernant les élections, a-t-on un nouveau calendrier possible?
Le calendrier, c'est le calendrier qui sera défini avec la communauté internationale, simplement au regard des contraintes qui sont nombreuses, à savoir le problème de sécurité qui est un frein pour la libre circulation sur l'ensemble du territoire, les problèmes d'état civil qui doivent être réglés, les problèmes de réfection, de réhabilitation des mairies, des sous-préfectures qui ont été détruites, les problèmes matériels, les problèmes financiers, les problèmes de recensement, les problèmes de déplacés, les problèmes des réfugiés, vous voyez. C'est seulement sur ça qu'on avait posé les contraintes, mais ce n'est pas du tout une envie de bouter en touche ou bien de faire traîner à longueur la transition. Le chef de l'État de la transition l'a dit au Conseil national de la transition, à l'occasion de la restitution des accords d'extradition des hostilités de Brazzaville, qu'il était important qu'on aille vite aux élections et qu'elle-même, elle souhaitait que ce soit rapide et qu'elle a demandé au Premier ministre publiquement devant le corps diplomatique qu'il fallait que le Premier ministre s'attelle principalement sur cette question des élections pour rassurer ceux qui avaient des doutes et qu'elle a encore réaffirmé qu'elle ne se présentera pas du tout aux élections générales qui seront prévues au bout de la transition.
Antoinette Montaigne, porte-parole de la présidence centrafricaine jointe à Bangui.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine à Bangui sur 101.7 FM.
En République démocratique du Congo, poursuite du procès relatif à l'assassinat du colonel Mamadou Ndala, ce héros de la lutte contre les rebelles du M23 dans l'est du Congo a été retrouvé mort calciné dans son véhicule en janvier dernier près de Beni dans le nord Kivu. L'ONG La Voix des Sans-Voix exige aussi la vérité sur la mort subite d'un témoin clé, le chauffeur du colonel. Les défenseurs des droits de l'homme dénoncent en effet la disparition des témoins dans plusieurs procès du genre, comme le précise Dolly Ibefo, président de l'ONG La Voix des Sans-Voix. Eddie Sango revient sur cette affaire.
Dolly Ibefo, président de l'ONG Voix des Sans-Voix, a déclaré à La Voix de l'Amérique qu'il exige une enquête sérieuse et approfondie sur la mort subite du chauffeur du colonel Ndala, décédé au lendemain de son témoignage à la cour.
Nous avons demandé aux autorités qu'on puisse diligenter une enquête indépendante pour faire la lumière sur les circonstances réelles de la mort du sergent-major Hassan Ndabo, donc l'ancien chauffeur du colonel Mamadou Ndala. Nous avons aussi demandé qu'on puisse exhumer le corps et faire l'autopsie pour qu'on sache de quoi il est mort, qu'on puisse renforcer les mesures de sécurité en faveur de tous les prévenus.
La disparition du témoin majeur au procès du colonel Ndala s'ajoute à d'autres cas similaires dans les passés. Ibefo estime que l'habitude commence à s'installer en RDC.
Un procès où il y a mort d'homme, où il y a assassinat d'une personnalité très connue, et souvent on s'arrange pour essayer de masquer, en fait, de cacher la vérité. Le cas de Floribert Chebeya et Fidel Bazana en dit beaucoup. Dans ce procès, il y avait un témoin principal oculaire qui a vécu quand on tuait Floribert Chebeya et Fidel Bazana et qui a voulu se présenter. On est venu le prendre et s'il ne s'était pas évadé, parce que selon sa déclaration, s'il ne s'était pas évadé, il serait déjà lui aussi mort.
Floribert Chebeya avait fondé La Voix des Sans-Voix. En 2010, il avait été trouvé mort dans son véhicule. Les corps de son chauffeur, officiellement déclaré mort un an plus tard, n'ont jamais été retrouvés. La veille de son assassinat, Chebeya avait été convoqué par le général Numbi, chef de la police congolaise à l'époque. En août, la Cour suprême s'est déclarée incompétente sur les cas, mais les avocats ont saisi la Cour militaire pour poursuivre les procès.
Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Mungano à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM.
La Syrie et la Russie estiment que la coalition internationale contre l'État islamique serait plus efficace si elle incluait la Syrie. L'administration Obama rejette de son côté toute idée d'associer la Syrie à cette guerre qu'elle ne veut pas mêler celle que mènent les groupes rebelles contre Damas. Les précisions de Lionel Gahima.
Les autorités américaines disent qu'elles n'informent pas le gouvernement syrien de raids aériens contre les militants de l'État islamique en Syrie, mais qu'elles continuent d'avertir l'armée syrienne de ne pas s'en prendre aux avions de la coalition. Il serait plus facile de défaire l'État islamique si la Syrie était invitée à prendre part à la guerre, estime le chef de la diplomatie syrienne, Walid al-Mualem.
Ladies and gentlemen, hasn't the time come for all of us to stand as one in the face of this serious menace?
N'est-il pas temps, mesdames et messieurs, de faire front commun contre cette sérieuse menace mondiale de l'idéologie terroriste? L'heure de vérité n'a-t-elle pas sonné pour nous tous de reconnaître que l'État islamique, le front al-Nusra et les autres groupes liés à Al-Qaïda ne se cantonneront pas à l'intérieur de la Syrie et de l'Irak, mais qu'ils s'étendront partout où ils pourront, à commencer par l'Europe et l'Amérique, s'est demandé le ministre syrien des Affaires étrangères. Son homologue russe a abondé dans le même sens. Exclure les autorités syriennes des efforts en cours sur leur territoire non seulement viole le droit international, mais sape l'efficacité de ces efforts, a fait savoir Sergueï Lavrov. Réponse de la porte-parole du département d'État américain, le président syrien Bachar al-Assad fait lui-même partie du problème.
The Assad regime continues to indiscriminately use barrel bombs and bombard their own people.
Le régime Assad continue le recours indiscriminé aux bombes barils contre son propre peuple. Certaines informations font état de bombardements contre des zones où des femmes et des enfants attendaient une distribution de pain, a expliqué la porte-parole du département d'État. Des pays alliés comme la Turquie et l'Arabie saoudite, qui veulent en finir avec le régime Assad, redoutent pour leur part que les bombardements contre l'État islamique atténuent la pression militaire sur le gouvernement de Damas. Plus les raids aériens dureront, plus il sera nécessaire d'assurer une certaine coordination au sol avec le gouvernement syrien, pense le professeur Akbar Ahmed d'American University de Washington.
The ball then rests with President Obama. He's got to make the decision.
La balle est donc dans le camp du président Obama. Est-il prêt à discuter avec Assad ou d'avoir quelques contacts avec lui en vue de former un front commun contre l'État islamique? De deux mots, il faudra bien choisir le moindre, a fait savoir le professeur Akbar Ahmed d'American University de Washington.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, nouveau point sur l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Au menu, une série de reportages sur les drames humains que provoque la crise. Faites-nous part de vos témoignages sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique. Rendez-vous donc ce jeudi à 19h TU sur la VOA.
Les assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international vont s'ouvrir demain à Washington. Les deux institutions internationales ont publié des prévisions de croissance très positives pour l'Afrique, plus de 5% en 2015-2016, de bons résultats qui sont toutefois assombris par les répercussions négatives que pourrait avoir l'épidémie d'Ebola ou les attaques terroristes d'Al-Shabaab ou Boko Haram. Au micro de Claire Morin-Gibourg, l'économiste de la Banque mondiale, Luc Christiansen.
La baisse du prix des matières premières peut continuer encore et ça donne un risque externe, si vous voulez. Mais il y a aussi plusieurs risques domestiques. Il y a surtout le déficit public qui a augmenté déjà de 3,1% à 3,6%. Et ça peut poser des problèmes, surtout dans quelques pays comme la Zambie et le Ghana. Et en plus, il y a naturellement des répercussions économiques des activités terroristes, des groupes terroristes, tels que Boko Haram et Al-Shabaab. Et de manière plus urgente, il y a aussi l'épidémie Ebola qui s'est abattue sur l'Afrique de l'Ouest.
Alors, on parle de croissance récurrente pour l'Afrique depuis près de 20 ans déjà. Y a-t-il aujourd'hui une meilleure redistribution des richesses?
Ça continue à être un défi, comme vous dites. Il faut bien voir quelles ont été les sources de croissance. Et c'était surtout le secteur des services et l'industrie, c'est-à-dire les matières premières, mais pas tellement l'agriculture ou les produits manufacturiers. La source de croissance est très importante en ce qui concerne la réduction de la pauvreté. Dans ce rapport, on a investigué ça un peu plus. Et si la croissance vient de l'agriculture, ça a beaucoup plus d'effet sur la pauvreté. Qu'on voit aussi même dans les pays mêmes, comme par exemple exemple, le Rwanda et l'Éthiopie, ce sont deux pays où l'agriculture a augmenté beaucoup et ceux-là sont aussi deux pays où la pauvreté a diminué beaucoup.
Voilà, donc c'était sur la Banque mondiale. Luc Christiansen, économiste pour la Banque mondiale. À présent, les sports avec Timothée Donangmaï. Tim, bonjour.
Bonjour Idrissa.
La Mauritanie a enfin un nouveau sélectionneur.
Eh oui Idrissa, pour remplacer Patrice Neveu, limogé après l'échec de Moura Bitoun dans les éliminatoires de la CAN 2015, la fédération a donc décidé de faire confiance à un autre technicien français, Corentin Martens. Âgé de 45 ans, l'ancien international tricolore, libre depuis son départ de Brest en 2013, a été préféré à ses compatriotes Sébastien Desabre et Pierre Lechantre, ainsi qu'au Serbe Milovan Rajevac.
Pour le Sénégal, 4 forfaits à déplorer avant la double confrontation contre la Tunisie.
Alain Giresse a rappelé 3 joueurs dans la tanière, mais n'entend pas se servir de cette situation comme d'une éventuelle excuse. Pape Gueye, Metalis Kharkov en Ukraine, Ibrahim Mbaye, Inter Milan, et Pape Aliou Ndiaye, Bodo Glimt, Norvège, viennent pallier les absences des défenseurs Lamine Sané, Bordeaux, et Pape Soaré, Lille. Le milieu défensif Sékou Kouyaté, West Ham, Angleterre, et l'attaquant Mam Biram Diouf, Stoke City, Angleterre.
Des nouvelles du pilote de Formule 1, Jules Bianchi.
Victime d'un grave accident dimanche au Grand Prix du Japon, il souffre d'un sévère traumatisme cérébral. C'est ce qu'a annoncé hier sa famille à l'hôpital Yokkaichi via un communiqué de l'écurie de Formule 1, Marussia, où évolue le jeune pilote français. Jules Bianchi reste placé en soins intensifs et est dans un état critique mais stationnaire.
Maintenant, la page musicale de Roger Muntu. Salut Roger.
Bonjour Idrissa. Très jeune, Oumar Konaté impressionnait ses amis du quartier par sa musique. Juste avec un seau et un tambour, il jouait tous les soirs devant la maison familiale à Gao. Aujourd'hui, Konaté fait des tournées en Europe et aux États-Unis avec des grands comme vieux Farka Touré. Mais qui est vraiment Oumar Konaté? La réponse au micro de notre collègue Modibo Dembélé.
Bon, Oumar Konaté, l'enfant de Gao, on dit. Je suis né à Gao, pris la musique à Gao, après je suis venu à Bamako, faire l'Institut National des Arts. Après, j'ai commencé le conservatoire, mais je n'ai pas pu finir ça en fonction des tournées.
Mais Oumar, comment vous avez été mordu par le virus de la musique?
Waouh, ça c'est depuis à l'enfance. Parce que mon père aussi était le chef du bureau des arts de la jeunesse. Donc tout le temps, s'il y a des spectacles, il m'amène avec lui. Donc tout le temps, je voyais que de la musique. Et c'est venu comme ça.
Mais aujourd'hui, je sais que vous avez vraiment tourné avec beaucoup de grands de la musique malienne, dont... Ouais. Bonkana, et puis la liste n'est pas exhaustive. Ouais. Et si aujourd'hui il y a quelque chose que vous voudrez encore faire, quelle serait vraiment cette chose, surtout musicalement?
Musicalement?
Oui.
Bon, je veux vraiment être plus haut. Travailler dur. Faire aussi les rêves qui sont dans ma tête que je veux faire. Je veux faire vraiment aux artistes maliens à Bamako.
May deni sarama, may deni juguma. Bali maubato wala kine bife, koro kubato wala kine bife.
Oumar Konaté Ado, May deni. Merci Roger.
De rien Idrissa, bonne journée à nos amis de Cocody à Abidjan.
May deni sarama, may deni yo, maideni juguma maideni yo ho maideni sarama maideni yo maideni juguma nyadi on sede wallahi yebani.
Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique en direct de Washington. Ainsi s'achève cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seroudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de La Voix de l'Amérique.